Vous écoutez Bac FM, bienvenue si vous nous rejoignez. On termine la semaine ensemble en musique avec le groupe Symptômes. Ils sont nos invités pour parler de leur premier album qui s'appelle L'Ombre des Croix et de la release party qui aura lieu au Café Charbon le 14 novembre. Ce sont mes derniers invités de cette semaine générique. Bonjour Nico, bonjour Maxime.
Salut. Bonjour.
Vous êtes deux des trois membres du groupe Symptômes. Symptômes, c'est déjà deux EP, c'est un album sorti très récemment. Il y a une release party qui arrive au Café Charbon, on va l'évoquer dans quelques instants. Juste avant, on va expliquer ce que c'est finalement Symptômes. Alors, j'ai écouté votre album très récemment, là, pour pas vous mentir, il y a quelques heures. Je me suis un petit peu replongé dans Indochine. Je sais pas si je dis des bêtises ou pas, on va l'évoquer, c'est cet album. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres qui seront tous joués, j'imagine, à la release party au Café Charbon, avec déjà un public qui vous attend nombreux, j'en suis sûr, parce que je suis allé fouiner un petit peu sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'impatients. Pourquoi il y a autant d'impatients pour Symptômes? C'est quoi l'histoire de ce groupe?
Alors, Symptômes, c'est un groupe qui est né il y a 4 ans, en fait, juste après le Covid. En fait, on est, je pense, un groupe complètement issu de la période de confinement. C'était la période point de départ. Et donc, on a commencé à faire ça un peu tranquillement chez nous. Pourquoi ça suscite de l'impatience? C'est un peu difficile de...
Est-ce que c'est parce que si vous avez votre propre histoire musicale à côté de Symptômes et avant Symptômes? Nico, toi, on te connaît avec notamment Plastic Age. Toi, Maxime, est-ce que t'as une histoire aussi avant tout ça?
Ouais, mais qui est beaucoup plus confidentielle que celle de Nico.
Mais il y a plein de groupes quand même, hein, ouais. Dans lesquels t'as exercé. Donc,
Ouais, moi j'ai joué en fait dans, je sais pas, peut-être 7 ou 8 groupes avant de me lancer dans Symptômes.
Okay.
depuis très longtemps. Notamment le tout premier qui était à Nevers.
D'accord.
Parce que je suis originaire d'ici aussi. Et puis en fait j'ai navigué entre pas mal d'univers différents. Et là, ce qu'on fait avec, le genre de musique qu'on fait avec Symptômes, c'est un peu une première pour moi maintenant.
Post-punk, cold wave, comment on peut définir justement ce son?
Ça va être un style musical assez sombre dans l'instrumentation et dans les textes. Au niveau des groupes qu'on connaît, on va pouvoir se rattacher à des influences un peu années 80. Il y a les Cure, Joy Division, pour le grand public ça parle. Dans les groupes récents, il y a Fontaines D.C. que vous diffusez pas mal, qui a sorti un album assez récemment, tout comme Indochine. Donc voilà, nous on colle pas mal à cette définition-là. C'est un rock assez froid quand même, hein.
Ouais, assez froid, assez rugueux, et puis on se rattache, on suit pas mal quand même une scène qui est un peu plus confidentielle, la scène, on peut dire, post-punk, lo-fi française, où là on va être vraiment sur des groupes de niche assez confidentiels, mais que nous on prend plaisir à suivre et qui nous inspire beaucoup.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes deux des trois membres du groupe. Il y a Pauline aussi. Alors on va pas parler pour elle, mais vous pouvez quand même la présenter un petit peu au micro et ce qu'elle a fait avant aussi ce groupe Symptômes.
Alors Pauline, donc c'est notre batteuse et moi j'aime bien dire que c'est un peu notre tête pensante, parce que le projet il est vraiment né
sous son impulsion.
Ouais, aussi bien au niveau de l'esthétique, de l'orientation musicale. C'est vraiment quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à écouter de la musique ensemble, on s'est vraiment centré sur ce qu'elle écoute beaucoup, et c'est vraiment elle qui nous a amené un peu sur ce terrain-là qui était, bah, par exemple pour moi, pas forcément quelque chose de très évident au départ.
Moi non plus, ouais. C'est notre colonne vertébrale, c'est elle qui est à l'origine un petit peu du groupe, on va dire, et aussi du nom du groupe, voilà.
Oui, du coup, Symptômes, pourquoi Symptômes, ça veut dire quoi?
Alors, Symptômes, c'est Pauline du coup qui en parlera le mieux, mais c'est un concept de la pensée lacanienne. Donc Lacan, c'est un psychanalyste français, et le symptôme dans la pensée de Lacan, c'est une réponse unique et créative à un conflit intérieur. Donc pour le groupe, ça peut évoquer la transformation des difficultés en musique.
Ce qu'on peut retrouver notamment avec Lumière Noire, par exemple, le premier titre de votre nouvel album qui s'appelle L'Ombre des Croix. On va en écouter un extrait.
Stress, angoisse, lumière noire. Stress, angoisse, lumière noire.
Vous avez évoqué Pauline, Maxime, Nico, vous êtes les trois membres de ce groupe qui s'appelle Symptômes. Est-ce que la complexité aussi, quand on crée un groupe, c'est de ravir tout le monde dans la, des fois, la pluralité aussi des envies et de ce que vous voulez faire comme style musical ?
Ouais, c'est une complexité dans le sens où on vient tous les trois d'univers assez différents. T'as parlé de Nico dans Plastic Edge qui jouait un punk peut-être plus californien, si tu me permets. Moi j'ai fait plus, enfin j'ai joué dans des groupes aussi bien jazz, funk, psychédélique, dans des trucs vraiment pop new wave, enfin c'est assez varié. Et Pauline qui vient de cette scène plus alternative. Et en fait je pense qu'on a réussi à se mettre d'accord et à satisfaire tout le monde en fait en fixant des limites. Et ça je pense que c'est important quand tu lances un groupe, surtout quand t'as des influences hyper variées, c'est de te fixer un cadre. Alors au début ça peut avoir l'air contraignant. Et en fait, ça t'ouvre des portes en restreignant un peu ce que tu vas faire. Ça te fixe un cadre qui devient artistiquement, je pense, assez intéressant parce que tu vas essayer d'en tirer le maximum de parties. Quoi.
Ouais, pour enfin définir un style, même si maintenant on sait que musicalement c'est compliqué de définir un style précis.
Oh oui.
On peut aller dans des sens relativement différents. Ouais. En fait, l'important c'est d'avoir son style propre à soi et ne pas vouloir forcément copier tout en ayant des inspirations, j'imagine.
Ouais. Mais du coup, nous, parlant de définir un cadre et de restreindre certaines choses, nous ça passe principalement, je pense, par la technique. On est un trio, on n'a jamais trop cherché à en bouger, on va pas trop essayer de mettre beaucoup d'effets sur nos productions, de trop produire, on essaye de garder un truc très spontané et très, très live en fait quand on enregistre.
C'est ça. D'autant que Symptômes, c'est un groupe vraiment collectif, les trois personnes participent pleinement aux compositions, aux textes, donc ça c'est super important. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi notre force et notre singularité.
Alors justement, votre rôle, vous, à la fois à l'intérieur du groupe, mais sur scène aussi, comment vous pourriez vous définir chacun sur votre rôle ?
C'est une bonne question, je crois qu'on n'y a jamais vraiment réfléchi. On a tous des capacités qui vont aider à faire avancer le groupe. Max, il est très fort en technique. Il arrive à nous faire des chouettes démos sur Ableton. Pauline, voilà, elle va être plus axée sur l'esthétique. Elle est assez habile en com aussi, tout ce qui va être visuel. Moi, je vais être assez fort dans le côté administratif, etc. Et on se
rejoint d'ailleurs.
Ouais, c'est le sale boulot, c'est toujours pour moi. Donc voilà, les concerts, qui c'est qui les trouve, etc. Ça, c'est moi. Et après, comme je le disais à l'instant, collectivement, on se retrouve tous sur l'aspect créatif parce qu'on participe tous de base. Voilà.
Alors sur scène, tout le monde chante. Toi, t'es guitariste, j'imagine, Nico.
Oui.
Et moi, je suis à la basse et au chant aussi.
D'accord.
Ouais. Et du coup, on se répartit le chant peut-être à 60-40.
Oui, tu chantes un peu plus que moi.
Ouais.
On fait chanter Pauline aussi sur les disques.
Oui. Mais de base, elle ne chante pas majoritairement.
Non. En live, on n'a jamais vraiment essayé. Ce serait intéressant. Par contre, sur disque, ça apporte toujours une texture en plus, une voix un peu plus aiguë. Donc moi, j'aime bien lui dire ça serait bien que tu fasses cette partie-là à ma place en fait pour que ça change un petit peu. Et on l'entend bien sur les EP, sur l'album.
Sur les enregistrements, oui, on a envie qu'on sente sa présence aussi par la voix, ouais. Si on l'entend déjà bien par la batterie, mais on a envie aussi qu'elle ait cette présence par le micro. Quoi.
Mais c'est voué à évoluer, parce que déjà, Symptômes... Alors déjà, on n'a pas dit quand est-ce que ça avait été... Ah si, pendant le Covid, ça a été créé pendant le Covid, pardon, autant pour moi. Et c'est déjà deux EP, un album. Le premier EP, il s'appelait Symptômes, le deuxième s'appelait Fantômes. Ouais. Et un album, donc maintenant, qui s'appelle L'Ombre des Croix. Comment justement le groupe a évolué à travers ces deux EP et cet album maintenant?
Le premier EP, c'était celui des débuts, celui où on se découvre un petit peu en enregistrement. On l'a fait avec une tierce personne en plus. Le deuxième, pareil, j'ai envie de dire, il était plus brut. Là, on avait vraiment envie de faire quelque chose de nos tout premiers morceaux. Et pour l'album, là, c'était... un choix longuement mûri de morceaux qui étaient travaillés depuis 2 ans, qui étaient bien rodés sur scène aussi. Donc là, vraiment, on attaque quelque chose qui est un petit peu plus complexe, qui a plus de cohérence aussi.
Oui. Ben non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nico. Effectivement, les deux premiers EP, c'était un peu des sortes de laboratoires. Le premier,
ouais, il y a une recherche aussi, ouais, à travers des EP. Ouais.
Le premier très produit, juste pour voir ce que nous on était capable de faire en ayant les moyens d'un studio qu'on avait à dispo et en essayant de faire le plus proprement possible les choses, un peu pour se tester. Le deuxième, c'est quelque chose de plus expérimental, de plus spontané. Et en fait, ces deux EP nous ont permis, je pense, de trouver un équilibre entre le produit et le sale. Et du coup, ça donne l'album qui est, je pense, une bonne synthèse de ces deux versions de Saint-Homme, quoi.
L'album, c'est une manière de dire voilà qui on est, nous sommes Saint-Homme et voilà ce qu'on va vous proposer tout au long de notre carrière, plus ou moins, avec des évolutions bien évidemment, mais voilà ce qu'on va vous offrir.
Ouais, je pense que c'est ce qui synthétise le mieux nos quatre premières années d'existence et qui est artistiquement le truc dont on se sent le plus... Enfin, qui est le plus proche de ce qu'on avait envie de faire à l'origine.
C'est ça. C'est d'autant plus difficile de répondre à cette question que quand on regarde, on a sorti quelque chose chaque année ces dernières années. 2022 le premier EP, 2023 le deuxième, et là 2024, donc on est assez productif et du coup, bah... On prend quand même le temps de réfléchir à chaque fois, mais on a des choses à donner et à offrir voilà, en termes de production.
Tu évoquais l'aspect laboratoire d'un EP. Est-ce que du coup, quand on travaille un album, on réfléchit beaucoup plus aussi à l'ordre des sons qu'on va mettre? Est-ce qu'on essaye de raconter une histoire aussi à travers? Ça se fait beaucoup maintenant dans les albums, le fait qu'il y ait vraiment un début, une fin et qu'on ne puisse pas écouter le titre 4 après le titre 6, après le titre 2. Il faut vraiment écouter l'ordre à l'image d'un livre, en fait. C'est compliqué, justement, de construire un album.
Bah là ça va être un peu décevant comme réponse parce que je pense qu'on l'a pas du tout envisagé comme ça. En fait on se retrouve avec 9 titres qui sont, je pense, y a une cohérence dans le son, mais il y a quand même des inspirations de base assez variées entre les titres. Et en fait, on les a mis les uns à la suite des autres dans un ordre qui nous semblait le plus logique. Mais pour moi, ils sont assez indépendants. En fait, moi, j'aime bien penser à cet album vraiment comme un recueil, tu vois, ou un recueil de nouvelles où chaque histoire est indépendante l'une de l'autre. Après, ça t'empêche pas, tu vois, d'avoir un cheminement quand t'écoutes le tout, mais... Je pense qu'on n'est pas trop, on réfléchit pas tant que, on intellectualise pas trop notre démarche. On n'est pas sur un concept album ou.
Ah oui, non.
C'est pas réellement notre.
Même s'il y a des thématiques qui restent assez présentes dans notre musique, mais non, on n'est pas du tout dans ce délire-là. C'est pas du tout le mood du post-punk de toute façon.
Après, peut-être que ça viendra sur un prochain projet, mais...
Un opéra post-punk. Ouais.
Et justement, il y a des sons où vous vous retrouvez plus les uns par rapport aux autres, etc., à travers cet album. Je pense à Lumière Noire, c'est le premier titre. On y parle de stress, d'angoisse, justement, à travers cette Lumière Noire. Est-ce que ça reflète plus l'image d'un des membres du groupe plutôt qu'un autre, etc.?
Je crois que Lumière Noire, c'est plus un travail collectif, encore une fois... Vraiment, le titre a été fait au niveau instrumental vraiment assez rapidement. Et pareil, les paroles ont été balancées un peu en mode, voilà, il faut des mots qui cognent un petit peu, qui soient efficaces. Je crois que c'est Pauline et Max qui sont un peu à l'origine du texte. Non, c'est plus Pauline.
Je me souviens plus trop, mais en tout cas, oui, c'est le morceau repose que sur ces quatre mots, stress, angoisse, lumière noire. Et en fait, c'était presque un peu balancé comme une sorte de blague. Et oui, c'est un morceau qu'on a fait super vite. Et en fait, on l'a gardé presque tel quel. On aime bien cette idée d'un peu d'urgence. Enfin, en tout cas, là, ça a
voilà,
bien.
Ouais.
C'est l'impact aussi, ce qui marche dans ce son. C'est pour ça qu'il ouvre cet album, parce que d'entrée de jeu, on voit un petit peu où est-ce qu'on est tombé.
Oui, puis évidemment, on va pas se mentir, il y a ce petit côté catchy un peu dans le morceau. Donc, il attrape directement l'auditeur. C'est un peu marketing ce que je dis, mais voilà, ça fonctionne bien. Et il y a d'autres morceaux assez courts et urgents comme Lumière Noire qu'on a un peu disposé tout au long de l'album qui ont cet effet-là, comme Sortie 33, qui a un riff et une attaque qui te prend un petit peu direct comme la voiture sur l'autoroute qui prend la Sortie 33.
Yeah. justement, c'est ce qu'on retrouve à travers le titre de cet album. Il y a plein d'autres titres aussi, à l'image de Memento Mori. Quand j'ai écouté ce titre, j'ai eu une impression d'écouter Indochine. Est-ce que ça fait partie de vos inspirations ?
Alors moi je suis très content que tu mentionnes ça parce qu'en fait c'est un truc qui revient souvent, je pense que ça vient du fait qu'on chante en français et qu'en fait on n'a pas, il y a assez peu de groupes français qui sont aussi connus qu'Indochine dans le registre de la New Wave et donc des gens parfois ont l'air un peu embêtés en nous disant ça parce qu'ils pensent qu'on va mal le prendre, en fait moi je le prends très très bien. Les premiers albums d'Indochine, je suis très très fan.
Moins le dernier.
Leur période récente avec leur retour à partir de.
Le chant des cygnes, t'es moins fan.
Ouais, ça me parle moins. Mais par contre, leur toute première période, je trouve que c'était un groupe qui avait une fraîcheur, une créativité incroyable.
Ouais.
Et du coup, je me revendique pas, on se revendique pas d'Indochine, mais en tout cas, moi, c'est un groupe, je suis très flatté à chaque fois qu'on l'évoque.
Moi j'avoue qu'avec mon passé de punk californien, du coup avec Plastic Edge, j'ai plus de mal avec ça, d'autant que avec Apolline de Plastic Edge, on avait beaucoup de mal avec la voix de Nicolas Sirkis. Mais il faudrait que je fasse un pas de côté et que j'écoute la première période, du coup
c'est fabuleux,
je serai d'accord.
Mais c'est intéressant justement de voir la divergence de point de vue que vous avez. C'est ça aussi la force d'un groupe. Et pour travailler un album, c'est de pas forcément être d'accord sur tout, sur les inspirations. C'est ce qui crée aussi des titres qui peuvent être différents et qui marchent en fait.
Voilà. Non mais d'autant plus que pour revenir à Indochine, moi je suis né à la fin des années 90, donc j'ai grandi avec J'ai demandé à la lune.
Ouais, c'était pas leur meilleur.
Non. Donc pardon, la question.
Bah oui, je pense que en fait un groupe, c'est aussi intéressant de faire un groupe s'il t'apporte quelque chose, tu vois. Et je pense que, enfin moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de jouer dans des groupes où on est tous d'accord, on veut faire quelque chose de bien précis, on veut même en fait copier tout simplement des trucs qui marchent.
Ouais.
En fait, tu t'ennuies très vite. Et aussi t'es frustré parce que ça marche pas comme tu veux. Et là justement, bah moi ça fait 4 ans qu'on fait ça, je sais pas où on va. Je sais même pas ce qu'on fera après, tu vois, comme.
Mais ça, c'est le rôle de Nico, c'est lui le côté administratif, on l'a dit.
Non, mais je veux dire, les prochains morceaux, je sais pas à quoi ils vont ressembler et je trouve ça hyper stimulant, tu vois.
Ouais.
C'est tout le temps de la découverte.
On s'épanouit, on est un peu excité en hype par rapport à ça et c'est très cool.
Alors je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent qu'on ne parle pas du groupe Indochine, on parle bien du groupe Saint-Homme. Ils sont mes invités pour parler de L'Ombre des Croix. C'est votre premier album, dernier album en date. Après 2 EP, vous allez le présenter au Café Charbon dans quelques jours maintenant pour une release party. C'est le 14 novembre. Vous allez tous jouer vos sons à cette release party? Vous allez en sélectionner certains?
Non, on a déjà prévu la setlist pour tous les concerts de cet automne et je crois qu'on en exclut un ou deux de l'album. À côté de ça, il y aura des titres de nos autres EP, et pour ceux qui ont l'habitude de nous voir, il y aura un peu de nouveauté parce qu'on va jouer 2 ou 3 nouveaux morceaux tout l'automne, donc on a plutôt hâte de les tester sur scène. C'est à ça aussi que ça sert les concerts pour nous, donc voilà.
Ouais, parce qu'il y a construire un album, ce qu'on évoquait juste avant, et construire aussi une mise en scène, finalement un concert scénique, c'est différent, c'est totalement différent.
Oui, un petit peu, parce que moi j'aime bien l'idée de proposer quelque chose de différent pour les gens qui ont l'habitude de nous entendre, que ce soit sur disque ou sur scène. Après, pour Saint-Homme, je vais pas dire que le groupe prend toute sa dimension sur scène. On n'est pas un groupe taillé pour ça non plus, mais c'est toujours intéressant d'avoir les retours, d'avoir un ressenti différent. Et j'aime beaucoup l'idée, dans un groupe qui a vraiment une vie et un collectif, de partir par exemple sur la route pendant quelques jours. C'est des expériences, ma foi, assez agréables. Moi, j'aime beaucoup ça.
Qui peuvent nourrir aussi certains titres futurs, j'imagine.
Exactement.
Ça a déjà été le cas.
Exactement aussi.
C'est déjà un titre qui parle d'expérience de concert qu'on a eu de manière très déguisée, mais ouais, ça t'apporte toujours des expériences, des points d'expérience, et après tu peux toujours en faire quelque chose. C'est sûr que ça, en tout cas, ça fait évoluer aussi même techniquement, parce que tu joues pas de la même manière après avoir fait une petite tournée qu'avant de partir, quoi. Ça, c'est certain.
Histoire de s'écouter juste un extrait justement de cet album, est-ce que vous avez cette volonté de faire un ravage sur scène ou pas?
C'est le morceau qui tabasse le plus, on va dire, hein.
Ouais, c'est le plus bruyant, et en fait, je pense que c'est presque celui qui représente le mieux Saint-Homme sur scène, à savoir quelque chose de qu'on veut le plus agressif, non, je dirais pas agressif.
Sauvage.
Le plus, ouais, voilà, quelque chose le plus sauvage le possible et le plus rentre dedans. Et en fait, on, tant pis si ça casse un peu les oreilles, tu vois, mais on aime bien ce côté très assumé du truc qui fait un peu mal à un moment.
On rappelle qu'il y a une release partie le 14 novembre, c'est au Café Charbon, pour présenter justement votre nouvel album qui s'appelle L'Ombre des Croix, avec tout au long de votre programmation de cet automne, vous avez dit certains titres aussi, des nouveautés qui seront jouées, parce qu'il y a déjà un autre EP ou un nouvel album de prévu qui est en tête.
Alors, on n'en a pas parlé encore. Mais y a, voilà, on aime beaucoup l'aspect créatif, en fait, et je pense que c'est pour ça que le groupe est né. Pauline, elle aime beaucoup ça en particulier, et c'est vrai que c'est toujours super excitant de taper l'impro tous les trois, de voir naître un morceau, de lui mettre un texte et de collaborer ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand on s'assied autour de la table et qu'on dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait chanter, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour compléter un texte ou en créer un nouveau.
Ouais.
Je crois que j'ai perdu le fil de la question.
Est-ce qu'il y avait un nouvel album ou
non,
un nouvel EP?
Non, pas encore.
Pas encore, mais ça va arriver bientôt, à ce que je crois comprendre.
Bah du coup, si on suit la cadence, on est parti pour 2025.
Ouais, je sais pas encore trop exactement ce qu'on va faire, mais oui, en fait, à chaque fois qu'on répète depuis un an, régulièrement, on a toujours un nouveau morceau qui finit par
émerger,
parce que c'est notre manière de fonctionner, elle est comme ça, en fait. On a des morceaux, des fois, qui peuvent sortir de nulle part. Et ouais, on n'en a pas encore trop discuté de la suite, mais oui, je pense qu'il va probablement y avoir un nouvel enregistrement dans les mois à venir. On n'a pas encore trop. On se laisse le temps vraiment là.
Bien sûr.
On essaye de s'occuper de l'album, de lui donner un petit peu de visibilité, de vie. Donc voilà, c'est lui qui a notre attention pour le moment.
Ouais, parce que faire évoluer musicalement un groupe, c'est aussi le faire évoluer visuellement, médiatiquement, comme tu le dis, en parler. Mais il y a aussi un merch, j'imagine, qui est en construction, qui est déjà sorti. Je sais qu'on peut se procurer L'Ombre des Croix en vinyle, par exemple. Alors, il est dispo aussi sur toutes nos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Mais il y a un merch aussi autour qui émerge autour du groupe.
Non, on est anticapitaliste, y a pas de... y a juste les CD et les cassettes et les vinyles, et c'est la meilleure manière de nous soutenir. Peut-être qu'on fera des stickers ou je ne sais quoi, mais voilà, on peut en profiter pour parler des labels qui ont soutenu l'album. Hein.
Ouais, trois labels d'ailleurs.
Oui, exactement.
Ouais, la grosse nouveauté là pour cette fin d'année, du coup, c'est l'album qui sort, et donc en vinyle, c'est la première fois qu'on sort un disque sous ce format-là. Et du coup, oui, grâce aux trois labels qui nous soutiennent, donc No Way Asso, en plus un label neuversois, on est très content de travailler avec eux parce que c'est vraiment nos grands frères. Skankblock Records, un label
parisien,
et Table Basse Records, un label suisse de passionnés qui sont toujours prêts à se lancer dans des trucs même complètement inconnus comme nous. Du coup, c'est top d'avoir ces gens qui sont super motivés et qui soutiennent aussi bien financièrement la production du vinyle et aussi commercialement, si je puis dire, parce que du coup, ils assurent aussi la distribution de leur côté. Et ça, pour un petit groupe comme nous, c'est...
Ça fait plaisir.
Ouais, c'est hyper, hyper important.
La confiance de ces labels différents géographiquement, tel que aussi professionnellement, j'imagine, parce que les structures sont différentes. C'est gage de réussite aussi pour la suite. C'est aussi gage de projet à venir, c'est-à-dire qu'ils vont vous soutenir sur des années, j'imagine.
ça peut offrir ce genre d'opportunités-là sur le long terme, c'est vrai. Ça participe à la construction de réseau, en tout cas. Donc oui, à l'avenir, ça peut aider la musique à aller un petit peu plus loin et à nous rendre la vie un petit peu plus facile dans la promotion et dans la distribution de la musique de Saint-Thôme.
Alors, on va évoquer très rapidement, on l'a déjà évoqué, cette release party au Café Charbon. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver au-delà? Il y a aussi cette volonté d'échange, j'imagine, avec le public qui va venir vous voir, parler avec eux de ce qu'ils ont ressenti après le concert.
Oui, ça se fait automatiquement à la fin de chaque concert.
Ouais, en plus, là du coup, donc ça va être à Nevers et ça fait, je crois que la dernière fois qu'on a joué à Nevers, ça devait être au mois de mars. Donc, même dans la Nièvre tout court, il s'est passé pas mal de temps depuis. Et donc, y aura tous nos copains de la No Way Asso aussi, donc ça va être super de pouvoir partager ce moment avec eux. Et du coup, le public qui nous connaît, et aussi les gens
qui découvrent
et aussi les gens qui suivent No Way Asso, parce que No Way, à la base, c'était un label qui était plus axé... historiquement autour du punk hardcore et puis qui s'est un peu plus diversifié maintenant, qui s'intéresse vraiment à toutes les musiques alternatives, et du coup ils ont vraiment leur base de fidèles qui sont des gens passionnés et curieux, et du coup qui viennent voir tous les concerts même si ils connaissent pas les groupes, et ça c'est top. Et je voulais aussi mentionner le fait qu'en première partie il y aura un groupe franco-italo-japonais qui s'appelle Gli Insetti nell'Ombra. Et en fait, qui est le groupe autour duquel s'est fondé le label Skunk Block, qui participe aussi au vinyle.
D'accord.
Donc en fait, ça va être une soirée quasiment avec...
grande fête de famille.
Avec des représentants de nos labels. Ouais. Et puis du coup, le public, on l'espère, ceux qui nous connaissent et puis ceux qui nous découvriront ce soir-là, qui on espère sera au rendez-vous.
Échanger avec eux, c'est une volonté aussi de voir ce qui marche peut-être moins aussi. C'est une jauge, en fait, sur vos concerts. Pour les travailler à l'avenir,
ça aide toujours.
Oui, même si après, je vais pas dire qu'on on se formalise pas trop de ce que nous disent les gens, parce qu'on a envie de faire les choses à notre sauce quand
c'est
même.
C'est ça, ouais.
On veut pas non plus trop se laisser influencer, tu vois, par des avis extérieurs. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des choses super intéressantes à prendre quand tu vas au contact des gens. Déjà, parfois, savoir. Quel morceau fonctionne, parce que tu t'en rendais pas forcément compte.
Voilà, ça, lequel ils ont préféré.
Je pense que c'est un peu comme ça qu'on a fait émerger, qu'on a un peu mis en avant sur l'album, par exemple Lumière Noire.
Ouais.
Parce que pour nous, c'était un morceau cool, mais presque un peu une blague au départ. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que les gens, quand on le jouait, ça les rendait un peu fous. Et nous, on n'en avait pas forcément conscience au départ.
C'est l'un de ceux qu'ils arrivaient à retenir au niveau du nom, donc direct, nous, on se dit, on va plus le mettre en valeur.
À retenir et puis même à chanter aussi, ce qui est assez rare.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Avec nous.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça aussi. Ouais, cette volonté que le public soit acteur aussi lors des concerts, c'est important, et notamment sur le chant de certains sons. À l'avenir, j'ai cette question évidemment, parce que ici sur BAC, on est partenaire d'un grand festival qui s'appelle le Printemps de Bourges, et on en parle régulièrement. Là, il y a bien sûr des noms qui sortent, il y a la conférence de presse qui va arriver bientôt pour nous, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr sur BAC. Est-ce que les Inouïs du Printemps de Bourges, c'est quelque chose qui vous parle un petit peu? Est-ce que dans un coin de la tête ça existe ou pas du tout?
On est honnête ou...
Vas-y.
Non, pas du tout. Non, en vrai, non. On est plus cave. En vrai, on est plus cave souterraine et poussiéreuse que grande scène avec 15 000 rodis et 15 000 techniciens. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut de la spontanéité, justement, du contact avec les gens. Donc voilà, on a ce côté toujours alternatif qui prend le dessus, donc désolé pour Clara Luciani et toute sa bande, mais...
En fait, non mais c'est
pas
non,
pour
mais
2025.
Non mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir. Moi j'ai reçu des gens qui m'ont dit que ouais ça pourrait être un kiff à l'avenir et d'autres qui sont pas forcément pour et c'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun aussi. Ouais,
ah oui oui non mais je respecte totalement. Moi-même j'ai joué sur une scène pour les jeunes talents il y a des années, mais non, Saint-Homme, ça n'ira pas, je pense, à cette échelle-là.
On va vous retrouver, en revanche, sur certains festivals. Moi, je pense au Soulfest, par exemple, qui arrive l'année prochaine, bien sûr. C'est un exemple de festival auquel qu'on évoque ici sur BAC. Est-ce qu'on va vous retrouver, justement, à l'affiche de...
Ça, par contre, ça pourrait. Après, pour les concerts, j'avoue aussi qu'on essaye toujours d'aller au-delà des limites départementales.
D'accord.
Parce que la Nièvre, on fait vite fait le tour en termes de lieux alternatifs. C'est pour ça que là, les prochaines dates, elles sont surtout dans le Puy-de-Dôme, on va en faire dans Lyon, etc.
Ok.
Voilà, et pour l'année prochaine, on n'est pas encore trop fixé, mais on va essayer de bouger un petit peu. Ça fait toujours du bien, ça permet de nouvelles rencontres.
Ouais, d'élargir un public aussi. Ouais,
exactement.
Oui, après l'idée des festivals, on n'est pas complètement fermé, mais c'est vrai que comme disait Nico, la réponse aussi par rapport au Printemps de Bourges, c'est que je pense que oui, on est plus attiré par des événements, des lieux, des acteurs alternatifs.
Ouais.
Donc c'est pas forcément ce format-là est pas fait pour nous. Par contre, il y a quand même plein de petits événements un peu plus confidentiels dans toute la France. Enfin moi qui m'intéresse et là
d'accord.
Peuvent peut-être un jour être plus en mesure de nous accueillir.
Carrément. Et c'est à méditer, bien sûr, à réfléchir ensemble, et on aura l'occasion de retrouver toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut vous suivre, justement? Il y a les réseaux sociaux.
Ouais, c'est déjà pas mal. C'est les principaux canaux pour nous écouter, pour nous suivre.
Facebook, Instagram.
Voilà, on essaye d'être assez régulier et qualitatif dessus. Donc,
et Bandcamp aussi, qui est un peu moins connu, qui est plus un truc de passionné, mais qu'on aime beaucoup, parce qu'en plus, il nous permet de vendre physiquement des disques.
Ok, ou ouais, justement, si on veut se procurer ce fameux vinyle, justement, de L'Ombre des Croix, où est-ce qu'on peut aller voir ça?
Et bien, sur Bandcamp, justement, on fera un bel envoi cartonné, etc. Et puis au concert, hein, tout simplement.
Oui, la release party est faite pour ça. Aussi.
Voilà. Où on pourra se procurer donc ce fameux vinyle de L'Ombre des Croix par Saint-Homme. Merci à vous d'avoir été mes invités. On va se quitter avec un son, bien
merci
sûr,
Théo.
De votre nouvel album, lequel on écoute. Dites-moi.
Mauvais penchant.
Oh, j'allais le dire. Bravo.
Et bien justement, c'est celui qu'on n'a pas évoqué. On écoute Mauvais penchant. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Cette émission sera en podcast sur le site bacfm.fr dès lundi. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi à 13h. Très bon week-end, bye.